Et maintenant, c'est l'heure de votre feuilleton hebdomadaire. Jour à neige, jour à peine. Feuilleton radiophonique écrit par Jean-Michel Asse, interprété en alternance et selon humeur par Didier Rexach et Jean-Michel Asse. Diffusé tous les vendredis de l'été à 21h sur Radio Bartas. Vous n'étiez pas là pour l'épisode précédent, alors je résume vite fait. Je dors paisiblement dans une hutte que l'on m'a prêtée après une bamboula chez les hommes de la forêt. Quand je suis tiré par les pieds hors de ma couche, la hutte flambe, ça crie dans le village. Je comprends vite que l'on est attaqué.
La saison du champignon démarre doucettement. On a déjà fait quelques poêlés des Jurolles. Les ramasseurs ramassent, les cuisiniers cuisinent et les autres mangent. Dans les faits, c'est souvent le ramasseur qui cuisine et qui se goinfre. Les invités, triés sur le volet, apportent œufs et cochonailles. Pour le vin, on se débrouille. On pique dans les réserves du château. Les tonneaux sont à côté des cuisines. Ce jour, c'est Willibert qui régale. Comme elle venait au château faire emplette de céleri pour des chevaux et que les bœufs ne se sont pas pressés, elle a ramassé les girolles au bord du chemin. On a fait griller des côtelettes d'agneau et entamé une boule de pain cuite de la nuit. On est au paradis avec du pain frais. Il faut dire que l'approvisionnement en pain frais n'est plus ce qu'il était. Depuis que les bénédictins ont mis la main sur la boulangerie, le pain frais se fait de plus en plus rare. La cour est approvisionnée correctement, les autres se débrouillent. La meule du village des hommes libres tourne à plein régime. Ceux qui peuvent font leur pain. Autant la population a digéré la troupe d'occupation comme je vous l'ai raconté plus haut, autant l'intégration des bénédictins est plus ardue. Avec le temps qui passe, ils occupent de plus en plus de terrain. La gestion des bains leur a échappé, mais ils se rattrapent sur le pain. Ils gèrent le four. Ils ont leur mot à dire sur l'organisation des fêtes religieuses, source de revenus conséquents. Ils nous ont mis des saints à fêter tous les 15 jours. Tu veux te marier, tu payes. Tu enterres un parent au cimetière chrétien, faut payer. Ils ont réussi à faire lever un impôt avec l'aide de l'évêque pour la construction d'un petit couvent sur les terres de Bertrand le Pleutre. Le baronnet a même été obligé de donner quelques arpents pour construire la chapelle. Comme disent ces chers moines, il s'est acheté une place au ciel. La religion envahit notre quotidien, ça devient pesant. Et la baronne dans tout ça ? Il y a encore pas longtemps, elle freinait des quatre fers la progression sauvage de la chrétienté. Comme elle disait, chacun est libre de croire en ce qu'il veut s'il ne fait pas chier son voisin. Oui, elle a dit chier. Rennes peut parler grossier. Mais maintenant, le vent a tourné. On ne connaît pas les dessous politiques de ce revirement, mais le bruit court que le supérieur des moines et la reine seraient proches. Certains, bien informés, disent même très, très proches. Ce serait son amant. Bruit de couloir ou vérité, je ne sais pas, mais Pénélope a viré sa cutie. Elle boit de l'eau bénite et bouffe dans la main de l'église. À titre d'information, elle ne fait plus de sorties sociales aux écuries. Les sauteries de la maisonnée du petit personnel ont été remplacées par des soirées de prière au château. Le cuisinier nous a donné le menu de ses veillées pieuses. Le moins qu'on puisse dire, ils savent se faire plaisir. Rôti, poulet, saucisson en brioche, tarte aux pommes. Les plats sont servis avec sauce grasse ou sauce pas grasse. Tout ça pour s'attirer les grâces du Seigneur. On n'est pas très futé, mais vu de l'extérieur, tous ces salamalecs sentent l'escroquerie. D'après les petites qui font le service, les dames sont souvent à genoux. Mais pas obligatoirement en prière. Après les champignons, sieste et travail. On est assis au soleil, sur le banc, devant la cuisine. C'est samedi, jour de réunion du club des langues de pute. Club très fermé, comprenant une dizaine de membres, dont la seule fonction est d'analyser les bruits de chiottes qui circulent dans le château et d'avoir une opinion sur tout et sur rien. Et surtout de dire du mal de tout ce qui bouge. C'est assez stupide comme occupation, mais ça défoule. Personne n'est à l'abri de nos sarcasmes, depuis la baronne jusqu'au dernier porcher. Pour te dire, même nous, les membres du club, ne sommes pas à l'abri. Si tu n'es pas présent à la réunion, tu peux te faire incendier comme les autres. Tu en prends pour ton grade. On était sur un cas intéressant de cocufiage. Quand un môme nous arrive dessus, comme s'il avait vu le diable, on le calme et il nous apprend que Salamandre est morte. Salamandre, c'est le surnom de la lavandière du château. Comme elle a les cheveux roux et qu'elle était toujours dans l'eau quand elle était petite, le surnom lui est resté. On se lève pour aller voir. Personnellement, je fais la gueule. La lavandière était un peu comme une sœur. Elle faisait partie des orphelins des marais que le baron avait adoptés, tout comme Marguerite. À ce jour, il ne restait qu'elle et moi de cette aventure. On l'a sortie de la mare où elle s'est noyée et je suis obligé d'admettre que je suis le dernier survivant des enfants du marais. On me réconforte comme quoi elle n'a pas souffert. Frédérine, prévenue, se pointe et décide qu'elle sera enterrée dans le cimetière chrétien avec les gens de la haute et qu'elle paye la messe et tout le tralala. Tout cela ne me réconforte pas. C'est une mauvaise année pour moi. Marguerite me quitte et meurt. Et la salamandre qui se noie, comme une conne. J'ai le mauvais œil. La baronne offre une tournée générale en disant que l'alcool va peut-être nous redonner la mémoire. Avant de rentrer dans ses foyers, elle me prend à part et veut savoir pourquoi j'ai repoussé son offre. En effet, quelques jours auparavant, elle me fait mander et me propose une promenade au jardin des moines, voir si les légumes sont contents. C'est son truc. Si elle a quelque chose à te dire, elle le fait hors du château en promenade. Comme ça, les oreilles indiscrètes ne peuvent entendre. Avant, elle ne faisait jamais ça. Mais depuis l'arrivée des bénédictins, l'ambiance a changé au château. Elle n'a plus la haute main sur le monde. Ça grenouille beaucoup dans les couloirs. Elle veut que je devienne officiellement un de ses conseillers, avec avantages et argent dû à la fonction. Faux cul, je demande à réfléchir. Elle veut une réponse au bout de l'arrêt de poireau. Comme on y arrive, je la lui donne. Elle est négative. C'est non. Sur le coup, elle a encaissé. Mais aujourd'hui, elle veut savoir pourquoi j'ai repoussé son offre. En tant que chef du comté, elle n'est pas tellement habituée à ce que l'on refuse une promotion et un poste important. La majorité de mes camarades auraient sauté sur l'occasion. Malheureusement pour elle, et heureusement pour moi, je ne suis pas la majorité. Je ne suis pas mieux que les autres, mais j'ai certaines idées sur la façon de mener ma vie. Du moins, c'est ce que je me dis à chaque fois que je prends la mauvaise décision. Jusqu'à ce jour, toutes les soi-disant mauvaises décisions que j'ai prises se sont révélées à la longue bénéficiaires. Je lui dis, « Si j'avais dit oui, tu ne m'aurais pas demandé pourquoi. Alors fais pareil pour non. Ne me demande pas. » Comme vous pouvez voir, je tutoie la baronne. En public, vouvoiement, en privé, tutoiement. Elle fait la gueule, mais elle accepte et rentre dans ses foyers. Ça m'arrange, j'ai des courses à faire. Plus exactement, je dois aller piquer des pierres sur des ruines romaines. Je m'embourgeoise et veux construire une petite cheminée dans mon chez-moi. un des lutins qui a fait maçon dans une autre vie va m'aider. En échange, je l'aiderai à essarter un coin de forêt où il veut s'installer. J'emprunte un char avec ses deux bœufs et nous voilà partis. Outre le bouvier, deux mômes nous accompagnent. Comme on part tard dans la journée, on dormira chez le charbonnier le plus près du château. On doit être revenu dans 2 jours. Je me suis occupé de l'intendance, plus des légumes pour nos hôtes. Le sol est pauvre chez eux. Tout pousse très mal. Le voyage se passe sans problème. Les charbonniers sont des hôtes charmants. Ils ne voient pas souvent du monde, mais je ne sais par quel miracle, ils en savent presque plus que nous sur la vie du pays. Entre autres, la liaison de Flore, la fifille de Bertrand Le Pleutre, avec un petit chef de clan de chez les barbares. Nouvelle que je n'ai apprise qu'hier, c'est vous dire. Quand on réfléchit bien, il n'y avait que la rivière qui les séparait. Et comme on dit chez nous, ils ont passé le pont. Ici, ça ne change pas grand-chose. Mais politiquement, ça peut se révéler être une avancée. Ou le contraire. On verra plus tard. En rentrant, on fait halte au village des hommes libres. On dort là, vu que le repas s'est continué tard dans la nuit. Au matin, c'est décidé. Avec Willibert, on va voir la mer. C'est comme ça, pas autrement. Je reste une journée chez moi et le lendemain, je passe chercher Willibert et on part en suivant la rivière. Comme toutes les rivières, à ce qu'on dit, finissent à la mer, on devrait dans quelques jours mettre nos pieds dans les vagues. Parce qu'à la mer, l'eau bouge. Elle part et elle revient. C'est la Belette qui nous l'a dit, alors que dans les rivières, l'eau ne coule que dans un sens. On voyage léger, le minimum pour tenir quelques jours. Pour une fois, il faut quand même le faire remarquer, il ne pleut pas. Alors, quand on s'installe pour la nuit, adossé à un bouquet de noisetiers, sort de la forêt de châtaigniers une étrange procession. Imaginez deux hommes attelés à un improbable charroi, des enfants qui mènent 3 chèvres, une femme qui tire une espèce de traîneau en forme de brancard, et le reste de l'équipe, 2 hommes et 3 femmes, portant tous les baluchons. Les chiens font ce qu'ils veulent, et les enfants suivent. Dès qu'ils nous voient, les femmes et les enfants s'égaillent. Les hommes s'emparent de bâtons et de houes et nous font face. On lève les mains pour montrer qu'on n'est pas dangereux. Willibert va à leur rencontre et établit le dialogue. Au début, c'est un peu compliqué, on ne parle pas le même patois, comme aurait dit frère Abelaine. Mais une des femmes nous comprend. Elle traduit. Une fois tout le monde rassuré, la situation est la suivante. Cela fait 3 jours qu'ils marchent vers le nord. Leur village a été pillé par une troupe de sarrasins. Depuis quelques lunes, des hordes de pillards tuent et brûlent entre la mer et les collines. Ils nous décrivent les bandits. En fait, ça correspond à ceux qu'on a poursuivis et tués il y a quelques mois. Eux, ils ont tout perdu, sauf la vie. Allez savoir pourquoi, ils veulent la garder encore quelque temps, alors ils fuient vers le nord. Ils marchent lentement. Je calcule que nous devons être à 1 jour ou 2 de la mer. Comme la nuit tombe, pile à l'heure, on monte un campement de fortune. Après mûre réflexion, on se rend compte que le voyage à la mer est remis à plus tard. On va accompagner ces gens au village des hommes libres, qui est plus près que le château. Comme on chevauche depuis 2 jours, dans 3 ou 4, on sera à bon port. Le soleil n'est pas encore levé, qu'on part. Les chevaux font leur travail de chevaux. Ils tirent le charroi et le brancard. On les a attelés comme on a pu, mais ça marche. Les baluchons de chacun ont été mis sur le charroi. Comme ça, tout le monde voyage plus léger. On suit la rivière en la remontant. Le lendemain, on croise sur l'autre rive une troupe de barbares en arame. Ils expliquent qu'ils descendent vers la mer, batailler avec les Sarrasins. Ils posent des questions sur l'armement des envahisseurs. On leur décrit des sabres recourbés et des boucliers ronds. Ils pensent que c'est des qui viennent de l'ouest en longeant la mer. Comme je n'y connais pas grand-chose, je suis d'accord avec eux. Les chevaux ont bu, ils repartent en descendant la rivière, et nous, on la remonte. 3 jours plus tard, installation des émigrés au village des hommes libres. En repartant vers le château, je me fais la réflexion qu'avec cette arrivée, il y a plus d'habitants au village des lutins qu'autour du château. Je trouve ça très bien, mais il va falloir en tenir compte. Les bénédictins ont déjà intégré cette donnée dans leur politique d'évangélisation. Ils ont fait quelques visites de courtoisie chez les hommes libres. Ils se sont fait envoyer sur les roses, mais soyez certains, ils s'accrochent. Je rends compte à Frédérune des derniers événements. Elle décide d'aller faire une visite de courtoisie au village, pour asseoir son autorité et se rendre compte de la situation par elle-même. Son déplacement se fera sobrement, pas plus d'une dizaine de personnes. Sont du voyage les utiles, frère Abélène, qui n'est plus moine, mais qui sait lire et écrire, Gradouble, le cuisinier, 2 ou 3 hommes d'armes de sa garde, et les inutiles, Balthazar de Lambrades, Connétable, Simon le Gras, Sénéchal, frère Restesec, en tant que sage vu son grand âge, et moi-même pour ma connaissance du terrain. Je ne sais comment elle s'y est prise, mais elle a réussi à se passer des bénédictins. Ça arrange tout le monde. Elle les a envoyés au nord, vers les marais, pour affiner le projet de pisciculture. Il faut bien 3 jours pour mettre sur pied cette expédition. Le 4e, ils voyageront. Ce qui reste de la troupe des fiers guerriers du comte partira devant pour sécuriser le parcours. Comme voyage discret, on a vu mieux. Je pars 1 jour avant pour prévenir le village de cette royale visite. Chez eux, la nouvelle divise. Il y a ceux qui sont fiers que le pouvoir les prenne en compte, ceux qui sont contre, par principe. Est-ce qu'ils vont voir au château comment elle gère la maison? Et ceux qui n'ont pas d'opinion, mais qui pensent que c'est une bonne occasion de gueuletonner. Toujours est-il que le sens de l'hospitalité prend le dessus et l'on se fait beau pour la visite royale. On lave les enfants, on balaye devant sa porte, les cochons en liberté sont parqués, on accroche des fleurs un peu partout. Je me fais la réflexion que pour des anarchistes, ils apprennent vite les bonnes manières, ou alors ils sont plus focus que je croyais. Quand Reine arrivera, sa tante et celle de sa suite seront montées, les enfants jetteront des fleurs sur son passage et des musiciens joueront un psaume. Je trouve cela un peu ridicule, mais Warin et le conseil du village y tiennent. Quand elle arrive, tout se passe comme prévu. L'orchestre joue faux, les enfants effraient les chevaux en jetant leurs fleurs, et c'est dans le plus grand bordel qu'elle descend de cheval, mettant le pied dans une bouse. Les dégâts sont réparés et la visite officielle peut commencer. On fait un tour du village avec présentation des personnes importantes. Certains lui donnent un petit cadeau, d'autres ont des récriminations à faire. Elle prend et elle écoute dans la bonne humeur. Suite à ça, elle s'installe dans sa tente et reçoit en tête-à-tête Warin en tant que chef du village pour un échange constructif. Rien ne filtre de leur entretien. Mais vu la mine réjouie de Warin, quand il sort, ça a dû bien se passer. Le soleil disparaît à l'horizon, on allume les torches et le festin commence. Comme on ne peut pas manger tous ensemble, Frédérune et les notables mangent à une grande table. Le reste du village festoie dans la clairière en se démerdant. Pour égayer la soirée, on a le droit à du jonglage, un ours savant, une danseuse du ventre, que tout le monde trouve trop habillée, et divers amusements du meilleur goût. Tard, dans la nuit, légèrement éméchée, la baronne me fait mander avant de se retirer sous sa tente. Elle me charge d'envoyer des émissaires chez Bertrand Le Pleutre, Gaston Le Bègue, Raymond Le Borgne et au village des Marais avec convocation dans une quinzaine à la prochaine lune au château pour une réunion extraordinaire de la baronnie. Sur ces bonnes paroles, elle disparaît sous sa tente par l'entrée principale, alors qu'une ombre se glisse par le côté chez elle. Dans le doute, je demande si tout va bien. « Vous avez de la visite ?» Elle me dit qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut et que tout va bien. Personnellement, je rejoins Willibert et on va discuter longuement des choses de la vie. Elle se rappelle quand elle a débarqué dans la clairière qui allait devenir la place centrale du château. Comme tout change, on a enfoncé un certain nombre de portes ouvertes avant de trouver le sommeil. On est réveillé par des cris et un grand brouhaha. Les villageois sont rassemblés sur la place. La foule est excitée et j'ai du mal à comprendre le problème. Willibert me rejoint et me donne l'information. Un marchand de draps a été attaqué sur la voie romaine plus au nord. Il avait quitté l'auberge de Tournebride et se dirigeait vers le château. C'est un petit berger qui est tombé sur le massacre. La baronne, prévenue, autorise Warin à mettre sur pied 2 ou 3 patrouilles pour explorer le quartier. Les guerriers, qui ne campaient pas très loin, en attendant le voyage retour de la baronne, sont envoyés à Tournebride pour enterrer les morts et sécuriser le coin. Warin nous donne quelques hommes pour accompagner le retour de Frédérune chez elle. À la nuit tombante, on est chez nous, plutôt chez elle. Le grand conseil n'aura lieu que dans une quinzaine. Ça laisse du temps à la préparation logistique. Simon Legras, sénéchal, et Balthazar de Lambrades, connétable, sont chargés de la mise en place de l'événement. Personnellement, j'en profite pour avancer mes travaux. Pour faire la cheminée, on construit un mur en pierre pour adosser l'âtre. Je m'aperçois que maçon, ce n'est pas si facile que ça. Sans aller jusqu'à tailler les pierres, on est quand même obligé de les dégrossir. Quand tu n'es pas habitué, ça fatigue. Intellectuellement, ça laisse du temps pour réfléchir. Cet après-midi, va savoir pourquoi, je me suis aperçu que je parlais beaucoup de moi et pas beaucoup des autres habitants du château. Pourtant, ils ont une vie. Si on prend le personnel, chacun a sa fonction et ça ne tourne pas trop mal. Le sellier travaille le cuir, le charpentier charpente, le cuistot cuisine, le scribe écrit, les porchers porchent, les écuyers écuient, les gardes gardent, etc., etc. Je ne vais pas faire tout le château, je pense que vous voyez où je veux en venir. Ça, c'est pour les actifs, parce qu'après, on a les inactifs, les ceux qui ont une fonction auprès de la baronne. En cuisine, on les appelle familièrement les nuisibles. On range dans cette catégorie les petits nobles, les demoiselles de compagnie, encore que pour elles, on a une certaine tendresse. Et tous les petits chefaillons de quelque chose, ou le plus souvent, de rien. Personnellement, je trouve que tout change trop vite, et en même temps, rien ne change. Je ne sais comment expliquer. Il y a ceux ou celles qui partent, mais en échange, il y a ceux qui arrivent. Le mot « échange » n'est pas le bon mot. Tu ne peux pas dire qu'on échange un bénédictin vivant contre une marguerite morte. Un bénédictin, même bel homme, ne vaut pas une marguerite. D'ailleurs, je me demande pour remplacer qui ou quoi les bénédictins ont été inventés. J'ai l'impression qu'on vivait très bien avant qu'ils ne soient là. C'est certain, ils sont chrétiens, c'est leur métier. Ils nous disent qu'il faut s'aimer les uns les autres. Mais on ne les a pas attendus pour aimer une autre. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire. C'est peut-être mieux avant, mais avant quoi ? Ma cheminée avance, certains se foutent de moi et me trouvent prétentieux. Ce sont des jaloux, ça leur passera. Il y a plus grave. Certains, dont moi, sentent bien le mauvais vent se lever sur la région. Je résume. Au nord de la baronnie, plus haut dans les montagnes, l'oppression des moines se fait plus pressante. Ils ont construit une ou deux abbayes qui sont devenues l'image de leur toute-puissance, tant spirituelle qu'économique. En fait, ce sont des grands domaines terriens sur les meilleures terres qu'ils ont piquées aux paysans. Ces mêmes paysans qui travaillent maintenant pour eux. En gros, les moines dirigent un peu la contrée. En bas, au sud, vers la mer et les grandes montagnes de Libérie, les populations subissent les raids des Sarrasins, de plus en plus nombreux. À l'est, les barbares se font plus pressants. Ils poussent un peu vers l'ouest. Le rapprochement d'une tribu barbare avec la famille de Bertrand le Pleutre en est la preuve. Il faut dire que le pauvre noble n'est pas en bon état. Il part des poumons et crache du sang à longueur de journée. En gros, il n'est plus bon à rien et ne tient plus sa maison. C'est Flore, dite Fifi, qui a pris le pouvoir. Valdrade, sa maman, part du ciboulot et passe ses journées en prière, souvent accompagnée de son confesseur particulier, bénédictin de son état. Pour ne rien gâcher, Fifi s'est entichée d'un chef barbare, blond comme les blés, qui vit maintenant au château de Bertrand le Pleutre. Ce qui fait que son clan se sent un peu chez lui sur les terres du château. La rivière qui faisait frontière ne fait plus rien. Enfin, si, elle fait toujours rivière, mais plus frontière. Quand on regarde bien, les lignes de force ont bougé. Seuls Gaston Le Bègue et Raymond Le Borgne restent fidèles à Frédérune. Avec ceux des marais. En parlant du marais, la pisciculture avance. On devait mettre en eau ces temps-ci, mais les changements politiques du côté de Bertrand le Pleutre ont fait reculer la date prévue. En plus, le fait d'élever des poissons que l'on va vendre alors que ceux du marais sont gratuits n'est pas encore admis dans la population. Disons qu'il reste du boulot pour changer de système économique. Les druides, qui normalement devraient être contents de l'avancée des païens, sur les terres des chrétiens, font un peu la gueule. Elles tiennent à leur confort et ne sont pas pour le changement. Elles trouvent que les druides de l'Est, chez les barbares, sont infréquentables, beaucoup trop de sacrifices et plein d'autres choses, mais je n'ai pas tout compris. C'est un peu comme les problèmes de croyance. Il y a du bon et du mauvais, selon du côté que tu regardes. On espère que la grande réunion chez la baronne va éclaircir certains points. Peut-être vont-ils évoquer l'an 1000 qui arrive au galop. C'est l'année prochaine et l'on nous prédit tout et son contraire. Je n'y crois pas trop. Je ne vois pas pourquoi ils en sauraient plus que nous. Mais comme dit le proverbe, pendant qu'ils sont ensemble, ils ne feront pas de conneries ailleurs. Une semaine passe. On ne sait toujours pas qui a zigouillé le marchand, mais comme d'habitude, on aurait vu un borgne en noir dans les parages. Pour l'anecdote, Frédérune porte un bras en écharpe suite à une chute de cheval. Madame croit toujours avoir 20 ans et chasse le sanglier, c'est son dada, chassé et charcuté. Elle réussit très bien la saucisse d'herbe. Ce sont les druides qui lui ont réduit sa fracture, ce qui a soulevé des problèmes diplomatiques avec les bénédictins. Une chrétienne doit être soignée par un chrétien. La nouvelle lune est là. Les invités sont arrivés les uns après les autres ces derniers jours. Une certaine effervescence règne sur le château, pour ne pas dire une effervescence certaine. Personnellement, je ne suis pas fanatique de ces grands raouts. Et après avoir passé la soirée aux cuisines, entre gens de bonne compagnie, j'ai fait coucouche-panier, non sans donner une bûche dans ma cheminée. Le confort moderne se mérite. Je dors du sommeil du juste. Au petit matin, j'ouvre la porte. La cour est blanche. Il a neigé, ce qui est rare en cette saison. Marguerite me l'avait dit en se glissant nue dans mon couchage. Elle avait dit « Jour à neige, jour à peine ». En parlant de peine, elle n'en eut pas beaucoup pour me mettre dans un état qu'une certaine morale réprouve. Ce qui devait arriver arrive, on joue au papa et à la maman, et comme tout a une fin, elle se rhabille et s'éclipse. Elle doit aller au four, c'est jour du pain. Le pain, c'est son truc. Il y en a, c'est la couture, Marguerite, c'est le pain. Elle est la boulangère du château. Il fait encore noir, et n'ayant rien à faire dans la nuit, je replonge. Quand j'émerge, un coq explique à son copain que c'est lui qui a la plus grosse. La porte ouverte, prenant la mesure de la situation, je fais demi-tour et m'emmaillote les pieds avec une vieille paille, parce que en sandales dans la neige, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas encore réussi à me payer des chaussures fermées. J'avais dit avant l'hiver, l'hiver est bientôt fini et je suis toujours en sandales. L'an 1000 va arriver, que je serai encore mal chaussé. Je n'ai pas fait 10 pas en direction des cuisines que je m'écroule dans la neige. Un carreau d'arbalète en plein cœur et ma vie s'arrête. C'est comme ça et pas autrement. Je suis mort le jour où je devais mourir. Tout est dans l'ordre. Je ne verrai pas l'an 1000.
There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Venez d'écouter Jour à neige, jour à peine sur Radio Bartas